Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 48 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Il y a parfois des options que l'on n'envisage absolument pas dans nos parcours, tout simplement parce qu'on n'en a pas connaissance. C'est d'ailleurs l'un des objets de ce podcast, vous faire découvrir l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous. Objectif ambitieux, tant j'en découvre encore aujourd'hui grâce à vos témoignages. Je demande souvent, en off à mes invités ayant eu recours à une FIV, ce qu'ils ont fait comme choix concernant les embryons surnuméraires. C'est une réflexion à mener très tôt. Cette décision se prend dès le début des protocoles de FIV, même si, bien sûr, elle n'est pas définitive. En fonction des cliniques, vous pouvez soit les donner à un autre couple, soit les donner à la science, soit les détruire. C'est un choix qui est très personnel, d'où le fait que j'interroge mes invités hors micro. J'avoue que je ne sais pas lequel nous aurions fait. En revanche, maintenant que j'ai eu connaissance du vécu d'une famille receveuse, la réflexion serait différente. Jennifer et Caroline ont eu la chance de pouvoir accueillir des embryons. Cela n'a pas été une proposition spontanée de la clinique, hélas, alors qu'elle rentrait parfaitement dans les cases du protocole. Le hasard d'une rencontre sur les réseaux sociaux, l'alignement entre leurs envies, leur fertilité et cette possibilité qu'offrait leur clinique, et les voici candidates à l'accueil d'embryons. Je vous laisse découvrir leur histoire et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jennifer.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je pense que c'était vraiment hyper important qu'on aborde le thème que l'on va aborder aujourd'hui. Je ne vais pas trop en dévoiler tout de suite. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et me présenter ta famille ?
Eh bien écoute, déjà merci à toi pour ce moment. Et puis donc moi je suis Jennifer, je suis mariée à ma compagne Caroline depuis quelques mois, parce que c'est tout frais de cet été. Et puis donc notre famille, avec deux petits bouts de chou, deux jumeaux de 4 mois bientôt. Mmh. Puis nos deux premiers bébés, deux petits chats, pareil, eux aussi sont frères, donc voilà. Famille nombreuse avec les animaux.
Tu t'as pas un peu reproduit le schéma ?
Un peu.
Un peu, on est d'accord.
Comme ça, on a un chacun de tout, des bébés et des chats.
Voilà, c'est rigolo. Et alors aujourd'hui, on est là pour que tu me racontes votre accès à la parentalité, qui, je présume, n'a pas forcément été simple. Alors évidemment, je le présume, dans la mesure où on va parler de l'accueil d'embryons.
Oui.
Là, je donne le thème. L'idée, c'est quand même qu'on comprenne, en fait, comment déjà vous vous êtes rencontrés avec Caroline.
Oui.
Enfin, que vous me racontiez votre histoire. Donc, comment est-ce que vous êtes rencontrés avec Caroline et que tu me racontes un peu comment vous avez réfléchi et à quel moment vous avez réfléchi à l'envie de devenir parent.
Alors, notre rencontre en soi était un petit peu... Enfin, surprenante, si je peux dire. Alors, ça a commencé un peu normalement comme ça se fait maintenant, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé sur un site de rencontre fin 2017, voilà, donc bon, on échange, etc. Et on se rend compte qu'en fait, on était dans le même établissement scolaire en 2005.
Donc, ah, c'est drôle ça.
Voilà, donc surprise, voilà. Alors moi, je me rappelais pas du tout d'elle, mais elle, par contre, voilà, avait des souvenirs de m'avoir croisée du regard, etc. là-bas.
Ah, excellent, tu y avais déjà tapé dans l'œil.
Voilà, visiblement, mais c'était pas réciproque, ou tout du moins, moi j'étais quand même beaucoup plus jeune, enfin on a 5 ans d'écart, donc voilà, j'étais pas du tout dans cette optique-là à ce moment-là.
Oui, 5 ans d'écart au lycée, ça, enfin, bah, ou
oui,
au collège, ça,
à cet âge-là, ça compte.
Ça compte. C'est
voilà,
ça.
Voilà, donc pour moi, voilà, c'était dans les plus grands, etc., donc ça me... Franchement, j'ai pas plus que ça. Et donc, du coup, bah, ça nous a fait un premier point commun pour bah, se remémorer quand même... Des souvenirs, etc. Donc, c'est vrai qu'on a tout de suite accroché rapidement. Et puis, suite à ça, voilà, on s'est mis rapidement ensemble. On a commencé à vivre ensemble vers l'été 2018. Donc, voilà, ça s'est fait quand même vite. Parallèlement à ça, moi, j'étais en procédure de divorce à ce moment-là.
D'accord.
Donc voilà, on n'a pas tout de suite projeté le désir d'enfant parce que, bon, déjà, moi, de mon côté, à l'époque, j'en avais pas forcément. Je m'étais toujours dit dans ma précédente vie que j'aurais jamais d'enfant et que voilà, alors sûrement aussi parce que la stabilité du couple n'y était pas, mais
ouais, t'étais peut-être pas avec la bonne
voilà,
personne.
Mais c'était pas quelque chose dont j'avais toujours eu envie, comme certaines personnes peuvent le dire, où voilà, c'était inné, je veux des enfants, etc. Moi, pas du tout. Mmh. Caroline, elle, par contre, plus, mais du fait qu'elle a toujours eu quand même connaissance de son homosexualité, pour elle c'était quelque chose, voilà, elle savait que ça allait être très compliqué et elle l'envisageait pas forcément de le concrétiser. Donc voilà, c'était dans un coin de sa tête, mais sans plus. Et puis le fait que moi je lui dise, ben voilà, moi ça m'emballe pas plus que ça, forcément ça a un peu fermé la porte dans un premier temps, ben voilà, au désir de construire une famille.
Oui. Et du coup, c'est sûr qu'en plus, toi en procédure de divorce, pas forcément avec cette envie-là. Enfin, avant que le sujet revienne sur le tapis, ça a dû prendre un petit peu de temps, non ?
Bah, il s'est passé un petit peu de temps. Ce qui a amené le sujet sur le tapis, c'est le début de mes problèmes de santé à moi. Donc c'est vrai que voilà, en je dirais mars ou avril 2018, donc avant qu'on emménage réellement ensemble, mais voilà, enfin je vivais quasiment chez elle, mais on va dire que c'était chez elle, j'y vivais pas définitivement. J'ai commencé à avoir des soucis gynécologiques, donc voilà, plus du tout de cycle, plus rien. Donc bon, dans un premier temps, je me suis dit le stress, la séparation, etc. Des fois voilà, plus tard, un mois, deux mois, et bon, voilà, je savais que j'étais pas enceinte, donc je m'inquiétais pas plus que ça. Et puis, bon, les mois ont passé quand même, je me suis dit, non, là, il y a un souci, parce que j'avais pas encore 30 ans, donc bon, normalement, c'est censé fonctionner à peu près correctement. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire des rendez-vous, avec, voilà, gynécologue, toute une batterie d'examens, voilà, des rendez-vous avec du coup plusieurs gynécos, parce que bon, ça aussi, on sait que c'est pas toujours très facile d'aller expliquer son cas et de dire qu'on est dans un couple homo quand on va consulter le gynécologue. Enfin,
oui, voilà, c'est pas... D'ailleurs, je pense que... on n'est pas très à l'aise.
Non, on n'est pas très à l'aise, et puis eux, ils sont pas toujours très agréables. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. On n'a pas toujours pris en compte. Mon problème en soi non plus, en me disant que de toute façon, puisque j'étais pas avec un homme et que je projetais pas d'avoir d'enfant, après tout, mon cycle, on s'en foutait un petit peu.
Oui, bah, c'est vrai que dans ce contexte, alors je dis pas que c'est une bonne idée de te répondre ça.
Non.
Mais dans le contexte, bon.
Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on aime bien savoir pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça le devrait.
Surtout à 30 ans, parce que voilà. Sur un problème gynéco comme ça, ça peut engager pas mal d'autres
bien
choses.
Bien sûr. Oui, oui, puisque après il a commencé à se griffer d'autres symptômes qui n'étaient pas juste l'absence de cycle, et qui étaient toutes les choses autour. Donc on a commencé à faire tout un tas d'analyses et on s'est rendu compte déjà d'un gros dérèglement hormonal, et puis du syndrome des ovaires polykystiques à un stade assez avancé.
Ouais.
Donc c'est vrai que, enfin, je sais pas quand est-ce que réellement le diagnostic a été posé. Je dirais peut-être ça a bien duré presque une année comme ça à aller de médecin en médecin, l'endocrinologue, le gynéco, etc. Enfin,
ouais, c'est toujours voilà, long. C'est un peu de l'errance médicale sur le truc gynéco.
Ouais, ouais, c'est toujours long. Et puis, tous les médecins sont pas forcément sensibilisés au SOPK, etc. Donc, c'est un peu l'errance médicale où on se renvoie la balle et tout. Et puis, je finis par tomber sur un gynéco qui était plus au fait des choses et qui me dit qu'au vu de mes résultats, voilà, on a essayé plusieurs fois avec des traitements de relancer la machine, si je puis dire, pour qu'il se passe quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il me dit, mais c'est vrai, très très zen, lui, de son côté, bon, bah voilà, heureusement qu'en soi, vous n'avez pas de projet bébé, puisque ça, bah là, clairement, ça pourra pas se faire.
D'accord, mais il avait mis un mot. Il avait mis un nom sur ta pathologie.
Alors, en fait, j'ai un, enfin, c'est le syndrome des ovaires polykystiques et mon dérèglement hormonal couplé fait que j'ai un taux de testostérone hyper haut, donc forcément, voilà, les ovaires, ils savent plus quoi faire de leur vie, les pauvres. Donc ils font plus rien. Donc voilà, forcément, voilà, comme on peut pas trop réguler ce taux hormonal facilement, bon ben voilà, dans l'immédiat la réponse était la suivante, voilà, heureusement que il y a pas de projet en cours puisque ça sera quasiment mission impossible.
Ah oui,
et
d'accord.
Je sais pas pourquoi, moi dans mon esprit, le fait qu'ils me disent bah vous pourrez pas avoir d'enfant ou tout du moins vraiment très difficilement, je me suis dit bon bah du coup j'en veux un. Je sais pas, ça a fait un déclic en fait.
Ouais, c'est clair.
Je pense qu'inconsciemment, je me disais que j'avais le temps. On sait qu'il y a l'horloge biologique de la femme, etc. Mais c'est vrai que 30 ans, on se dit, bon voilà, on n'est pas non plus au pied du mur.
Oui, non, clairement. Mais c'est clair.
Donc, je pense que c'était... Enfin, inconsciemment, le « j'en veux pas », c'était pour éloigner toutes les questions de « quand est-ce que tu vas t'y mettre ?», etc. Et c'était pas forcément une réponse définitive de ma part. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, je vois. En fait, je pense que oui, ça a peut-être précipité ta réflexion aussi, tu vois.
Le fait que bah qu'ils me disent qu'en gros voilà, c'était quasiment mission impossible et que si on voulait tenter parce qu'après j'en ai discuté plus approfondi avec lui, si on voulait tenter quelque chose en soi, c'était maintenant ou jamais parce que forcément plus des années allaient passer, plus la chose allait se mettre en place et on récupérerait peut-être pas un cycle quel qu'il soit quoi.
Oui, c'est ça. C'était tout de suite qu'il fallait se relancer pas du tout, quoi.
Donc, du coup, c'est vrai que je suis rentrée de ce rendez-vous en disant à Caroline, ben voilà ce qu'on m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que on devrait se lancer maintenant? Est-ce que tu... Enfin, voilà, vu que je sais qu'elle, c'était plus dans ses buts quand même d'avancer dans sa vie, etc. Puis bon, elle a 50 plus, donc bah voilà, forcément, si jamais il fallait que ce soit elle qui le porte, bon bah il fallait prendre ça en compte. Et puis dans tous les cas, voilà, elle voulait pas non plus être maman vraiment sur le tard, donc ce que je peux comprendre aussi. Donc c'est vrai qu'on a remis le sujet bébé sur le tapis et là j'étais moins focalisée sur le non, j'en veux pas, mais voilà, plutôt dans la réflexion.
Ouais, tu étais moins catégorique.
Ouais, j'étais beaucoup moins catégorique. Donc voilà, c'est vrai que ça s'est remis en marche comme ça, doucement. Parce que bah moi parallèlement bah, fallait quand même continuer les démarches au niveau médical pour essayer de faire avancer les choses.
Oui.
Donc après je sais pas, je pense qu'on a dû réussir à relancer un cycle à force de traitements hormonaux divers et variés de ménopause artificielle, etc. Enfin bref, on a fini.
Parce que du coup de cette discussion là, il en est sorti quoi en fait? Je te coupe, mais
Il en est sorti déjà qu'elle n'avait pas forcément le désir de le porter, donc que ça serait bien qu'il puisse se passer quelque chose sur moi, déjà. Il en est aussi sorti que, à l'époque, je me demandais si c'était elle qui portait cette grossesse, si j'allais réussir à m'attacher à ce bébé qui serait pas de moi, alors ce qui est complètement paradoxal au vu de la finalité des choses, mais voilà. Je me disais, il serait pas de moi, il aura jamais été dans mon ventre, je l'aurais jamais senti, etc. Comme je suis pas hyper fan des bébés en règle générale, enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui dit qu'il voit un petit enfant et à fond, donc je me disais, est-ce que je vais pouvoir l'aimer? Donc c'est vrai que moi aussi, je voulais que ce soit, qu'on arrive à ce que ce soit moi qui porte cette grossesse. Donc c'est vrai que je suis retournée à mon gynéco en lui disant, voilà, finalement, on aimerait quand même essayer de fonder une famille. Donc est-ce que voilà, est-ce qu'on peut faire un énième essai pour relancer les choses? Et puis aussi parce que tous les effets secondaires voilà, de ce manque de cycle, enfin franchement à l'époque c'était invivable. Donc c'est vrai que dans tous les cas il fallait trouver une solution.
Oui.
Donc voilà, plutôt que de fermer la porte et de te dire bon bah voilà, on se met en ménopause artificielle jusqu'au bout pour plus avoir les symptômes annexes et basta, finalement je préférais réessayer encore les dernières chances qui me restaient, parce qu'on n'avait pas non plus fait tous les traitements à l'époque, donc pour essayer de voir ce qui en ressortait.
D'accord.
Voilà.
Et vous arrivez à relancer un cycle?
On arrive à relancer un cycle, alors je pense vers l'été 2019, donc il s'était passé un peu plus d'un an déjà.
Ouais.
Entre le début des soucis et puis le moment où on arrive à relancer un cycle. Donc bon, déjà, en soi, voilà, l'espoir que ça se remette et que, pas forcément que sur le plan bébé, mais voilà, pour notre vie de couple en règle générale, parce que c'est vrai que d'être dans le mal comme ça constamment, c'est pas agréable ni pour la personne qui le vit, ni pour la personne qui vit avec nous, clairement.
Oui, c'est sûr.
Donc voilà, donc les mois se suivent parce que ben oui, on peut pas se précipiter non plus, hein. Si c'est un coup de chance, de le cycle est reparti pour un mois, concrètement on pourra rien faire derrière, donc on attend de voir quand même sur quelques mois si ça se maintient.
Et vous aviez réfléchi à ce moment-là, parce que ok, t'es en France, t'es suivie par un gynécologue français qui va t'aider, mais quid de où vous allez faire
alors,
un bébé?
Alors non,
en fait.
Alors on savait qu'on pouvait pas le faire ici, hein, forcément. On savait aussi que le côté artisanal de la chose, bah c'était pas envisageable, puisque dans tous les cas il faudrait une stimulation hormonale au vu de moi, de mes résultats.
Bah oui, bien sûr.
Mais voilà, donc c'était soit la Belgique, soit l'Espagne. Donc après on a fait nos recherches, etc. La Belgique, il y avait le côté rendez-vous psy, où à l'époque, pour moi c'était c'était prouvé qu'on pouvait être parent et je voulais pas en passer par là, alors qu'en fait bon, en soi après coup j'ai su que le rendez-vous était pas fait dans ce but-là, mais bon à l'époque voilà, moi je le voyais comme ça. Donc du coup on s'est rapidement dit si on tente quelque chose, ça sera l'Espagne. Mais c'est vrai qu'on s'est dit voilà, le cycle repart, OK, donc en soi insémination avec donneur, pas de souci, ça devrait le faire.
Oui. Voilà. Oui, ouais. Je retourne un peu en arrière, mais au moment où vous décidez de l'Espagne, toi, t'en es où dans tes cycles? Ils ont bien repris?
Je pense qu'on a décidé de l'Espagne peut-être au deuxième cycle qui... Enfin, voilà, le premier, on s'est dit, OK, ça marche, ouf, on a retenu notre souffle jusqu'au mois d'après pour voir si ça revenait. Là, on a vu que ça revenait et je lui ai dit, bon, bah là, il faut... Enfin, il faut pas trop perdre de temps, parce que finalement, on savait pas combien de mois ça allait s'enchaîner comme ça avant que tout redégringole, puisque concrètement, voilà, l'endocrinologue qui me suivait à l'époque me disait bon, c'est reparti, mais on sait pas pour combien de mois.
Oui, voilà, c'est ça. Je suppose que l'incertitude, elle est permanente
si
en fait.
Si vous voulez tenter un bébé, c'est tant que ça a l'air de se tenir, puisque on ne sait pas si le traitement remarchera une seconde fois pour relancer les choses. Voilà. Donc c'est vrai que ça a un peu précipité les choses, donc je pense que sincèrement ça a dû repartir, je te dis, l'été 2019, donc on a laissé passer les mois d'été. En septembre on a un peu remis ça sur le tapis en se disant voilà, il faut commencer à trouver une clinique, etc., parce que c'est vrai que j'avais pas d'idée de délai non plus.
Mais oui, c'est ça. Ouais.
En France, on sait que c'est long, mais...
Oui, mais c'est vrai qu'en fonction, en plus des pays, des cliniques, enfin, tout ça, tu sais pas...
Voilà, c'est pas toujours rapide. Enfin, voilà, bon, il s'avère que en Espagne, maintenant, je sais que c'est relativement rapide entre les premiers rendez-vous et l'acte en soi, mais c'est vrai qu'à l'époque, on le savait pas.
Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est normal que, en plus, en plein début de parcours, enfin voilà, c'est assez flou. Et puis,
bah oui,
en plus, toi, tu partais avec un sacré bagage, quand même, donc...
Oui.
C'était pas dit, peut-être que toutes les cliniques n'allaient pas te dire bah ouais, mais chez nous c'est pas possible.
C'est ça. Voilà, on savait pas l'accueil qu'on allait avoir auprès des cliniques. On savait pas non plus combien de temps on allait être sereine, moi au niveau de mes cycles. Enfin, c'était un peu l'inconnu. Et puis en plus, je trouve aussi que on a beau être un couple de femmes où on est censé connaître notre corps, etc. Alors oui, on sait que tous les mois on a nos règles et que c'est qu'on n'est pas enceinte et qu'il y a une période d'ovulation, etc. Mais tout le reste, finalement, tant que tout va bien et qu'on n'essaye pas d'être en parcours PMA, on connaît pas le reste pour la majorité des gens, j'ai l'impression. Voilà. Donc c'est vrai que c'est complètement le flou, en fait, le début.
Oui, c'est très très flou. Et puis, en plus de ça, tu manques en général beaucoup d'informations, donc, et ça dépend des cliniques. Donc, il y a trop de paramètres, en fait, pour que ce ne soit pas flou.
C'est clair. Puis on connaissait pas d'autres couples qui étaient passés par là, donc pas forcément possibilité d'échanger non plus. Du coup, la rentrée 2019 se fait un peu comme ça. Je contacte plusieurs cliniques pour déjà avoir un peu une idée du protocole, des tarifs, des délais, de si c'est possible au vu de mes résultats actuels. Enfin voilà, comment ça peut se passer. Mm-hmm. Donc on a fait aussi au feeling avec notre ressenti du premier contact. C'est vrai qu'il y a des cliniques qui nous ont un peu pressé le pas pour nous dire il faut prendre un premier rendez-vous tout de suite, rendez-vous pas forcément d'ailleurs gratuit si je puis dire, pour avoir des informations. Oui. Donc c'est vrai que le côté un peu business autour des bébés, c'est normal qu'ils facturent leurs services, mais c'est vrai qu'il y a des cliniques qui le font plus ressentir que d'autres.
Oui, c'est clair.
Voilà, donc on a fait aussi notre choix en fonction de ça. Je pense qu'on s'est décidé fin 2019 pour la clinique avec qui on a fait le parcours.
Qui est du coup
Qui est Girex.
Girex, ok. Ouais,
je savais pas si je pouvais citer ou pas.
Donc... Oui, bien sûr.
Donc, qui est Girex. Donc, en plus, c'est vrai qu'on a choisi aussi le lieu géographique parce que il y a deux antennes, soit à Gérone, soit à Barcelone. Donc, c'est vrai que venant de la région parisienne, Barcelone, c'est plus facile en avion, etc. Donc,
oui, ça, c'est accessible.
Ça. Voilà. Donc, fin d'année, on se lance. Il m'envoie la liste des examens à faire pour pouvoir constituer mon dossier, pour pouvoir étudier ça. Donc on a un premier rendez-vous avec une coordinatrice de la clinique pour nous expliquer le protocole d'IAD, etc. Donc pour l'instant, nous, dans notre esprit, ça reste comme ça. L'insémination en soi, c'est jouable. La coordinatrice nous dit que oui, le syndrome des ovaires polykystiques, il y a pas mal de patientes qui ont ça, qui ça pose pas en soi de soucis pour eux, ils ont quand même des résultats, etc. Donc on reste confiante.
Oui, mais toi t'as le problème du cycle parce que sur des ovaires polykystiques t'as pas forcément de défaut de cycle.
Non, il y a pas forcément. Oui. Mais en soi, j'ai pas vu de gynéco de la clinique, j'ai vu que la coordinatrice qui est pas un médecin.
Ouais,
donc
ouais,
pour elle
ça roule.
Ça va être peut-être un peu plus long.
Oui.
Mais ça roule.
D'accord.
Donc bon, on se dit que dans tous les cas, ça marche pas toujours du premier coup.
Oui.
Voilà.
Normal.
Donc, en soi, on n'est pas spécialement dépité, quoi. On se dit ok, c'est cool, ça va le faire. Donc donc liste des examens, on laisse passer les fêtes parce que ça, on devait être, je sais pas, courant décembre ou quelque chose comme ça. Donc
bon, vous étiez déjà rendu à décembre.
Mmh. Voilà. Donc on arrive en janvier 2020 et là on se dit on prend les rendez-vous, examen, rendez-vous gynéco, hystéro à passer, on passe pas que des bons moments aux examens, enfin pour ma part, c'est moi qui les ai eu. Mais bon, on y va. Et mm-hmm. puis arrive la prise de sang pour l'AMH, l'hormone, je saurais pas te développer l'acronyme en entier. Mais...
Oui, en tout cas c'est le taux de fertilité quoi, c'est ta réserve ovarienne.
C'est ça, qui est censé être analysé en complément du comptage folliculaire fait par échographie. Mmh. Bon, je fais ma prise de sang, je n'ai pas encore le résultat, mais c'est un moment bien donné du cycle, donc je fais ma prise de sang. Je fais mon comptage folliculaire et là, l'échographiste qui me le fait n'est pas emballé.
D'accord.
Donc, il me dit, ça peut pas être analysé, ce résultat-là peut pas être analysé sans la prise de sang et inversement. Donc il me dit pour l'instant, tant que tout n'est pas tombé, ok, c'est pas top, mais ça sera peaufiné au moment du résultat de la prise de sang. Ok.
Ok.
Là, donc je ressens un peu dépité quand même, parce que je me dis ça vient s'ajouter à tout le reste, donc ça commence à faire beaucoup de négatifs, on va dire. Et puis, forcément, au bout de quelques jours, je reçois le résultat de la prise de sang. Et là, je vois un taux, puisque c'est vraiment juste un taux avec un espèce de tableau en dessous avec des taux et des âges, des tranches d'âge, enfin.
Ouais.
Et donc, je vois que moi, j'ai autour de 0,73. Ce qui, ouais, en soi, pour 30 ans, n'est pas top du tout.
Et bah ouais.
Ouais, carrément. Et je vois que dans le tableau, ça correspond entre 40 et 45 ou 40 et 47, enfin quelque chose comme ça, en âge.
D'accord.
Et donc, ouais, je comprends que... Bon,
que là, ça peut être compliqué,
on n'est pas au top pour procréer en règle générale, donc je comprends que je suis pas au top moi non plus.
Aïe, 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 aïe.
Voilà. Ouais. Et donc, je me dis, ça craint. Sauf qu'entre-temps, bah, forcément, le temps d'attendre ce cycle pour faire le comptage, etc., on était déjà, je sais pas, peut-être mi-février, quelque chose comme ça, mais après, il y a eu notre copain, le confinement.
Ah, mais oui, on était, oui, bah, du coup, on tombe en 2020, oui.
Et bah oui. Donc, je reste un peu avec mon résultat, bof, bof. J'ai du mal à avoir un rendez-vous parce que bah parce qu'il y a toujours des délais d'attente, etc. Et puis bon, après, c'est vrai que voilà, moi j'ai eu d'autres choses dans ma vie professionnelle aussi, donc il s'est passé un petit délai comme ça jusqu'à ce que je revoie mon gynéco qui là me dit ouais bah non, en fait le résultat il est pas bon du tout. Et il me dit enfin, voilà, ça vient aussi expliquer que le cycle est chaotique parce que forcément, du fait que la réserve ovarienne n'est pas top, bah finalement, il y a aussi le côté, bah, quand il n'y a plus de réserve ovarienne, la ménopause vient forcément.
Donc, bah oui, mais tu vois, c'est, enfin, en fait, moi, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand tu m'as dit que j'ai plus de cycle.
Bah oui.
Enfin, je sais pas, je me serais dit, si je fais le truc.
Tout chercher, quoi. Sauf ça, finalement. C'est vrai que dans toute ma prise en charge médicale, on a mesuré toutes les hormones qui peuvent exister, sauf celle-ci.
Mais c'est fou. Voilà. Ça me dépasse, en fait. Mais,
ce qui, finalement, je me dis, même sans avoir problème de santé, peut-être que, on va dire, entre 30 et 35 ans, peut-être qu'il serait pas mal de faire un point là-dessus.
Bah, c'est ça, surtout.
On dit qu'on a le temps, mais pas forcément suivant les cas.
Ouais, voilà. C'est clair.
Donc, bon. Bref, voilà, donc je repars juste avant mon confinement là avec l'avis de mon gynéco qui me dit OK, pas bon du tout, voilà, à voir avec la clinique parce qu'il est pas spécialiste en PMA, mais lui est pas hyper optimiste.
Ouais.
On arrive quand même à obtenir un rendez-vous en visio avec la clinique ben je crois au tout début du confinement en France. Alors eux, je sais pas, ils devaient pas encore être confinés, je pense, ou en tout cas la clinique fonctionnait encore à ce moment-là. Et là, ben, j'avais pas tous mes résultats d'examen, il manquait quelques petits trucs, et puis forcément, nous, en France, on pouvait plus avoir de rendez-vous, à ce moment-là, voilà, c'était les rendez-vous médicaux, c'était qu'en cas d'urgence, hein, pendant le premier confinement, la première
fois. Oui, tout à fait.
On pouvait pas aller consulter pour tout et rien, donc bon, bah, moi, j'étais en stand-by, donc, le gynéco, là-bas, pouvait pas encore analyser mes résultats, parce qu'il avait pas tout, et que le protocole, c'est le dossier pas complet, on analyse pas, etc. Mais, c'est vrai que, du coup, là, la coordinatrice était beaucoup moins emballée, par le fait que ça puisse marcher.
Forcément.
Voilà.
Forcément.
Et elle a commencé à nous, parler, d'éventuellement passer par une FIV.
Ouais.
Et, nous dire aussi que la FIV, avec juste un don de sperme, forcément, comme on fait une grosse stimulation et qu'on récupère ben, un maximum d'ovules à l'issue, ben, on ne sait pas comment moi ça va réagir.
Mm-hmm.
Si on grille les dernières cartouches, après, il ne se passera vraiment plus rien et on ne pourra plus rien y faire.
Bah ouais, c'est ça, parce que déjà, tout était instable. Et puis voilà. Avec une stimulation hyper importante, waouh.
C'est ça.
Ouais.
Donc voilà, elle me dit qu'il faudra que ça soit discuté en commission par la clinique, puisqu'a priori les cas un peu particuliers, ils en débattent en commission chez eux en interne.
Mm-hmm.
Et donc elle commence à nous vraiment nous aiguiller vers la FIV double don, éventuellement la ROPA, mais à l'époque on n'était pas mariés, on voulait pas forcément se précipiter pour se marier pour ça non plus.
Ouais, j'allais te demander justement si t'avais parlé de la ROPA.
Ouais, ils nous en ont parlé, mais c'est vrai que voilà, on était juste paxés, et alors je sais pas si c'est pareil pour toutes les cliniques, mais en tout cas chez Girex, si t'es paxé, ça ne suffit pas.
Mm-hmm.
Donc c'est vrai que du coup, voilà, on était un peu coincés là-dessus. Par contre, ils nous ont pas parlé de l'accueil d'embryon à ce moment-là. C'était vraiment, d'accord, juste la FIV double don, et c'est vrai que bah forcément on a voulu savoir aussi un peu une idée du budget, parce que bon, on se doutait que c'était pas la même que l'insémination. Et puis quand voilà, quand elle nous a un peu annoncé les tarifs, etc., c'est vrai que ça nous a bah forcément refroidi aussi.
Oui, oui. C'était... Tu peux nous dire un peu de quel ordre c'était ?
Alors, de mémoire, je pense que c'était autour des 6 000 euros, 5 800, 6 000 euros.
D'accord, ok.
Voilà. Et puis, je crois 6 500 la roupa, enfin, quelque chose comme ça.
Oui.
Bah, c'était pas forcément le budget auquel on avait pensé. On avait d'autres projets, nous aussi, à côté. Enfin, voilà, parce que à l'époque, on était en location dans... Enfin, on avait juste une chambre. Le but était aussi d'acheter, de pouvoir mettre le bébé quelque part. Enfin...
Bah, bien
à
sûr.
Un moment donné, voilà, il faut aussi faire des choix. Donc, c'est vrai que ça nous avait un peu refroidi. Puis bon, de toute façon, on pouvait plus faire les examens puisqu'on était confinés. Mais bon, ceci dit, ça nous a permis de commencer à digérer l'information, nous, de notre côté.
Mais oui, c'est ce que j'allais te demander parce que, franchement, là, je pense que vous avez encaissé, quoi. C'est pas une
ouais,
petite info,
ça faisait
quoi.
Beaucoup. Non,
oui, c'est ça,
ça faisait beaucoup. C'est vrai que ça a été un peu les montagnes russes, quoi. Donc, le fait d'être confinés ensemble, bah, 24, voilà, ça a permis aussi de faire le point, de digérer un peu l'information, de dire, ok, si, une fois qu'ils auront tous les résultats, s'ils nous disent qu'il n'y a pas d'insémination possible, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye sur toi? Bon, elle était toujours pas emballée, ce que je peux comprendre. Est-ce qu'on fait, enfin, on voit financièrement et on fait une FIV double don et auquel cas, bah, il sera pas de nous. Voilà,
oui,
est-ce que
tout
ça
à fait.
A une importance pour nous ou pas?
Bah, c'est sûr que ça, il fallait aussi.
Voilà.
Enfin, bah, c'est une réflexion importante à mener.
Voilà, carrément. Alors, pour elle, un peu moins, parce que dans tous les cas, il n'allait pas être d'elle.
D'accord.
Elle, elle l'a perçu comme ça. De toute façon, enfin, ça sera notre enfant, quoi qu'il arrive, mais dans tous les cas, biologiquement, ce ne sera pas le mien. Donc, voilà, en soi. Qu'il soit d'une donneuse ou qu'il soit de toi, l'embryon, après tout, on s'en fiche un peu. Moi, je le voyais pas forcément de la même façon, parce que si, voilà, si je voulais le porter, c'était pour que ce soit mon bébé.
Ouais, toi, t'avais ce désir-là
voilà.
De base.
Donc, c'est vrai que ça a été plus compliqué, mais bon, après, les mois sont passés. Tu sais, on finit par aussi voir les choses différemment, de se dire que, bon, après tout, il va grandir 9 mois dans notre ventre.
Ouais, tu te résignes un petit peu quand
ouais,
même.
Oui, voilà. C'est quand même nous, enfin notre corps qui va permettre à cet embryon de grandir. Enfin voilà, donc on voit les choses un peu différemment, on commence à les voir différemment, mais bon, il y a le côté financier quand même qui bloque un peu. Parce que ça voudrait dire qu'on met tous nos autres projets en stand-by et que finalement on va se retrouver avec ce bébé bah là dans l'appartement trop petit pour être 3 en tout cas. Et puis après c'est vrai que ben on sort de confinement et puis on va pouvoir reprendre ces fameux examens finalement qui bloquent.
Oui, pour pouvoir faire au moins avancer le dossier.
Voilà, comment on sache ce qu'en pense le gynéco, parce qu'après tout c'est quand même lui qui
bah c'est ça
sur la
pour
place.
Le moment vous avez toujours pas eu de retour
et
du
ben
gynéco.
Non, parce que entre-temps en plus eux aussi ont fermé là-bas.
Oui, tout à fait.
Donc c'est vrai qu'on a vraiment choisi la bonne période pour faire
mais
ça.
Ça, c'était pas prévisible.
Non, bah non, malheureusement. Fin du printemps 2020, ouais, je peux finir mes examens un peu plus sereinement. Alors bon, ce qui est embêtant, c'est que du coup, je suis obligée d'aller toute seule partout puisque, bah, puisqu'on est toujours plus ou moins confinés. En tout cas, les accompagnants sont pas spécialement bien vus, donc, donc voilà. Donc du coup, c'est un peu en solo, mais bon, ma foi, ça avance. Je pense qu'on a dû envoyer le dossier à la clinique vers fin mai, quelque chose comme ça. Je sais pas, ils ont dû mettre une quinzaine de jours avant de que la coordinatrice me contacte.
Ah ouais, quand et même, puis, c'est hyper long, enfin, dans un parcours
bah ouais.
Comme ça, c'est hyper long.
Bon, après, en même temps, c'est vrai que comme ils avaient été fermés X temps.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il y avait beaucoup de dossiers.
Je suis d'accord, mais il y a, enfin, tu vois, dans le genre de cas où toi, il y a un critère de temps,
ah
et
bah
priorité
oui, non,
d'urgence, enfin, je sais pas.
Ça, c'est sûr qu'entre la rentrée 2019, on va dire, où le cycle était revenu, il s'était déjà passé presque un an, là.
Bah, c'est ça.
Voilà. Où tous les mois, tu croises les doigts en te disant...
Pourvu que ce soit pas le dernier.
Voilà. Pour que ça continue de bien se passer. Surtout qu'en plus, tout le temps du confinement, je me disais, je peux pas consulter.
Ouais.
Voilà. Alors, j'aurais peut-être trouvé un créneau quand même, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu la psychose du Covid, etc. Donc, on se disait...
ouais, complètement.
Voilà. Comment on va faire si ça se dérègle de nouveau? Donc voilà, donc début juin, je pense qu'il me contacte en mi-juin pour me dire voilà, on a étudié le dossier, machin, on va prévoir une petite date avec le gynéco en visio. Donc enfin le fameux rendez-vous.
Le Graal.
Ah oui, c'est clair. bah, rendez-vous bah, toute seule parce que ma conjointe travaillait et qu'elle pouvait pas poser et que il pouvait pas le week-end, il pouvait pas le fin d'après-midi, etc. Donc toute seule.
D'accord.
Donc je me dis encore, je vais me prendre la mauvaise nouvelle toute seule.
Ouais, c'est clair.
Voilà. Et puis là, je sens qu'il n'est pas emballé par mon dossier, mais que il n'est pas non plus complètement fermé au fait qu'on puisse essayer de faire une insémination. Il me dit juste que la stimulation sera plus importante que pour la majorité des femmes, que ce sera plus un petit peu comme quand ils font des inséminations sur des femmes plus âgées, on va dire ça comme ça. Mmh. Il me dit aussi que bon, forcément, plus l'âge avance, plus le potentiel de positif diminue, mais que ils arrivent quand même à avoir des positifs. Voilà, eux, ils font des inséminations jusqu'à 45 ans, donc en soi.
D'accord, oui.
Voilà.
Donc ça leur fait pas peur, quoi.
Non,
quelque part,
pas plus que
ton
ça.
Taux, il rentre dans le.
Oui,
ton,
voilà.
Ton AMH rentre dedans.
Je suis pas au top, mais je suis pas périmée pour lui, quoi. Donc bon, c'était quand même un petit peu rassurant, on va dire.
Ouais.
Bon, il m'explique quand même que le protocole de base, c'est 6 IAD avant de passer par une FIV si elles sont toutes négatives. Mmh. Il me dit que moi, dans mon cas, on va pas le faire 6 fois parce que c'est pas possible.
Ouais, tu m'étonnes.
Voilà, qu'on peut en envisager 2 plus ou moins sereinement. Que si je veux en faire une troisième, faudra que mon dossier repasse en commission et qu'on refasse d'autres analyses à ce moment-là pour voir où ça en est venu, puisque forcément, bah, la MH, elle va en descendant. Hein.
Bah oui, bien sûr.
Donc voilà, donc là, je me dis que quand même, il est serein, mais pas tant que ça.
Mm-hmm.
Puisque bon, voilà, il me reparle quand même de la FIV en me disant que la FIV sur moi directement, ça va être très compliqué. Que si jamais je me retrouvais ménopausée en cours de parcours parce qu'on est arrivé à la fin de la réserve ovarienne, que là ce serait difficile d'implanter un embryon quel qu'il soit.
D'accord, parce que ça a un impact sur aussi sur l'endomètre,
qualité,
tout ça.
Ouais, sur la qualité de l'endomètre. Enfin, en tout cas, alors il y a peut-être des cliniques qui le font, hein, je sais pas. En tout cas, eux évitent.
D'accord.
Voilà. Après, je pense que ça doit se faire parce qu'on entend des fois des femmes qui ont été enceintes à 60 ans, etc. Donc, je pense que ça doit se pratiquer dans certains établissements. Mais en tout cas, eux le font pas. Et puis après, c'est pareil, c'est pour partir. Enfin, je pense qu'aux États-Unis, etc., ça doit se faire parce que eux, ils font toujours des choses plus plus poussées que les autres. Mais à quel coût aussi ? Enfin, voilà.
Ouais, bien sûr.
Donc oui, on se dit que voilà, ça va être compliqué, mais bon, d'un autre côté, il dit on peut en tenter 2, donc nous, on se dit, bah allez, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai, donc on y va.
On va le tenter.
Bah oui, qui tente rien n'a rien. Donc en septembre, on laisse passer l'été, hein, parce que voilà, logistiquement, etc. On se dit qu'on est plus à 2 mois près, hein, de toute façon, clairement, voilà. Après, faut avoir le temps aussi d'être dans de bonnes conditions pour pas pour faire l'insémination au mieux, parce que si c'est pour enfin voilà, pour pas avoir l'esprit à ça, c'est pas la peine non plus. Donc on se dit, on attend septembre, on est plus à ça près.
Ouais.
Le retour des vacances, etc. On attaque et puis début du cycle, ok, il arrive plus ou moins à la date prévue, donc c'est cool. On commence les injections et puis bon, premier jour ça va, deuxième jour un peu moins et puis on va, enfin plus les injections passent, plus je suis malade.
D'accord, t'as des symptômes.
Ben, en fait, c'est simple, tous les effets secondaires qui, ben, j'étais sous ménopure, hein, donc, tous les effets secondaires qui étaient sur la liste, ben, c'était pour moi.
D'accord.
Les vertiges, les vomissements, les maux de ventre, les chutes de tension, enfin, la totale.
Ouais.
Voilà.
Ouais, tu réagissais plus, quoi.
Ah oui, oui. Voilà. Alors, niveau follicule, pas plus, juste
oui,
niveau voilà. Symptômes.
Ouais.
Voilà. Donc, je commence à... Bah déjà, je vois mon gynéco en France et je lui dis, pas possible. Je peux pas aller travailler, pas possible, je tiens pas debout. Enfin, je peux pas.
Ouais.
Donc, il me dit, oui, je m'en doutais un peu parce que forcément, rajouter encore une hormone synthétique à...
Oui, au traitement que tu
avais voilà,
déjà.
Voilà, au traitement que j'avais déjà à mes hormones à moi qui font le yo-yo, etc. Forcément, le corps, au bout d'un moment, il sait plus ce qu'il fait.
Ben oui, clairement.
Voilà, donc il me met en arrêt déjà pour éviter le côté d'aller travailler, etc. Et je contacte la clinique pour quand même leur dire que ça se passe pas super bien. Mais bon, comme niveau follicule, ça réagit normalement. Il n'y a pas d'hyperstimulation a priori et tout ça. Et il me dit, bon, ben, si on y arrive, on poursuit.
Ok.
Moi, je me dis, il faut absolument que j'arrive à poursuivre parce qu'on y est enfin.
Bah oui, oui, bien sûr. Bah oui, c'est clair. Voilà.
Donc on y va, on continue de faire les piqûres, etc. Bon, ça a pas duré. Enfin, je veux dire, je crois qu'on est parti au 14e jour en Espagne. Donc en soi, c'était pas plus long
oui,
pour les autres.
Oui, t'étais sur le timing classique. Ouais, voilà, tout à fait.
Pour moi, ça m'a paru long parce que j'étais mal, mais en soi, voilà. Puis après arrive donc la fameuse écho où on me dit bon bah c'est bon, c'est le départ, donc voilà, donc piqûre d'orgalutran pour stopper l'ovulation parce que forcément c'était un vendredi, donc fallait attendre le lundi.
Oh, punaise, oui.
Voilà, et donc là la nuit de vendredi à samedi, je me dis je vais être obligée d'aller à l'hôpital parce que enfin c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait, cette injection.
Ouais.
Et d'un autre côté, je me disais, si je vais à l'hôpital, ils vont pas me laisser poursuivre, ils me laisseront pas faire la piqûre de vitrelle et ils ne vont pas me laisser partir en Espagne. Donc, je me disais, il faut que ça passe, quoi. Il faut que j'arrive à tenir et on y est presque. Il reste 2 jours, quoi. Donc, voilà.
Mm-hmm.
Donc, bon, tant bien que mal, la nuit se passe. Le lendemain, c'est un peu moins horrible. Bon, voilà, on se dit qu'on prend l'avion le dimanche matin. Donc, voilà, je me demande si je vais pouvoir monter dans l'avion dans cet état-là. Mais bon, on y va.
Et ça passe ?
Ça passe.
Ouais.
J'ai tenu mes 2 heures de vol, ça passe. On fait l'intimidation. Bon, ça se passe bien. Forcément, bah, voilà, 14 jours plus tard, là, les règles étaient bien à l'heure. Et
ah ouais,
donc, je me dis, bon, bah, c'est mort.
Très punaise. Et puis, alors là, se dire que t'as subi
voilà.
Tout ça pour rien. Pouf,
voilà.
La redescendre, quoi.
Il faut redescendre. En même temps, on se dit qu'on n'a pas beaucoup de mois pour se dire, on fait une coupure, on réfléchit parce qu'on a toujours peur que ça s'arrête comme ça.
Bah,
et
bien
puis,
sûr.
Donc, on a une autre visio avec le gynéco. Mais là, c'est la coordinatrice qui revient vers moi pour me dire, faut qu'on cale une date pour se rencontrer. Enfin, pour faire une visio avec le gynéco. Ça, c'était pas prévu dans le protocole.
Ah oui, c'est ce que...
Voilà.
Ouais.
Et là, je comprends qu'il y a un problème, je pense.
Ouais.
Voilà. S'ils veulent me voir, c'est pas bon signe.
Tu les as tenus au courant de tout ce que t'avais eu
bien
comme
sûr,
symptômes ?
Bien sûr, oui. Mmh. Oui, tout d'accord. Au long du cycle, parce que bon, s'ils m'avaient dit... Enfin, si eux m'avaient dit on arrête, j'aurais écouté quand même. Hein, Mais bon. Et là, il me dit que il faudrait... parce que j'avais pas non plus des résultats d'écho super hein, au niveau de la taille des follicules. C'était pas... voilà. Donc, il me dit qu'il faudrait quand même doser encore un petit peu plus pour le deuxième essai si on veut pas le faire dans le vent, mais qu'au vu de mes réactions au premier, il était pas non plus certain que...
Il était pas chaud, quoi.
Voilà, que ça allait être possible de faire le traitement, le trajet, etc. avec une dose plus élevée.
Oui, c'est
bon,
clair.
Bon, j'avoue, je m'en sentais pas non plus... non plus capable, donc là il finit par me laisser à la fin de l'entretien en me disant bon bah la coordinatrice va vous reprendre et puis elle va vous reparler de la FIV pour qu'on y retourne.
Ouais.
Et elle me réexplique voilà, elle me reparle de la FIV des plus des moins, enfin voilà, de
mais toujours en double don,
toujours en double don. Ouais
ouais,
non bah
parce
là
que
c'est
là subir un traitement de FIV
impossible.
Ouh.
non bah là impossible concrètement, là c'était pas du tout envisageable. Dans tous les cas, physiquement, j'aurais pas pu supporter le traitement, c'est clair. Donc on reparle du double don et là le côté, enfin le blocage, c'était plus trop le côté ça sera pas nous, etc. C'était plus le côté, pas toujours ce côté financier. Alors bon, c'est pas censé impacter, mais bon mine de rien dans nos parcours, enfin.
Ah mais c'est un coup,
voilà.
Quoi. Faut pas le nier,
parce
quoi.
Parce que bon, il y a aussi le voyage qui vient s'ajouter et puis.
C'est ça.
Et puis voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'elle nous vante le côté il y aura probablement plein d'embryons à l'issue de cette FIV et donc possiblement plusieurs essais de transfert ou tout du moins possibilité de les réutiliser plus tard, etc. Donc ok. Et puis
ouais, mais toi t'as toujours ton problème de
moi,
si tes cycles s'arrêtent,
voilà.
T'as ton endomètre qui ouais voilà.
Voilà. Donc on commence quand même à étudier la piste de si moi c'est plus possible de les transférer sur moi, soit parce que ça n'a pas fonctionné, soit parce que pour la fratrie il est trop tard. Si ma femme ses résultats sont corrects à ce moment-là, est-ce qu'on peut récupérer ces fameux embryons pour elle, puisqu'ils seront, enfin pour nous dans notre esprit ils seront à nous.
Oui.
Sauf que là elle commence à nous expliquer que le protocole est pas vraiment comme ça et que finalement ils nous appartiennent pas à nous en tant que couple, mais à moi en tant que femme et patiente.
Oui. D'accord.
Et qu'il faudra de nouveau,
recommencer.
Recommencer ou tout du moins essayer de faire le forcing, passer en commission, faire des lettres, etc. pour essayer qu'elle récupère ces fameux embryons pour elle.
Mmh. Parce que là, tu me parles de fratrie. Donc, vous aviez en tout cas dans l'idée de potentiellement faire plusieurs enfants.
Alors, en soi, ouais, pourquoi pas. C'était pas forcément D'accord. un but, voilà, mais c'est vrai que forcément, si on te dit, il va te rester des embryons que tu pourras utiliser plus tard.
Tu t'envisages le truc, quoi.
Bah oui, fatalement. Mm-hmm. Après, on se disait aussi, bah voilà, 6 mois entre-temps, c'est pas bon. Si l'embryon est déjà là, forcément, son âge à elle aura moins d'impact.
Bien sûr.
Donc, pourquoi pas le faire, enfin, voilà, faire la deuxième grossesse sur elle, en soi. Mm-hmm. Donc ouais, on comprend que voilà, les embryons sont pas forcément à nous deux et que donc si jamais ça prend jamais sur moi et qu'il faut recommencer tout depuis le début, la FIV double don pour qu'elle puisse en bénéficier, enfin là on se dit que ça va pas être possible.
Après, t'aurais peut-être pas eu besoin d'un double don parce que là pour le coup, elle ses ovocytes.
Le temps serait passé de son côté aussi.
Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Pardon, j'avais zappé l'âge. Ouais. Oui.
Donc on se dit le temps de machin que tout ça se fasse, que les négatifs arrivent, hein, voilà, et que si on arrive aux portes des 40 pour elle, on ne sait pas si par exemple une insémination ça sera suffisant.
Bah oui,
donc
bien sûr.
On revient au même problème, quoi.
Ouais.
Donc on prend un peu de temps pour réfléchir. De toute façon, on se dit qu'on peut pas repartir sur octobre en IAD puisque de toute façon le traitement se passe pas bien.
Voilà. Ça c'était ouais, vous aviez fait une croix dessus.
Oui, clairement. Moi, je me voyais pas revivre ça une deuxième fois. Même si ça avait été le même dosage, j'avoue que je pense que j'aurais pas fait un second tour parce que de toute façon, c'était le deuxième et dernier hein, au vu de nos résultats.
Ouais.
Et franchement, non, parce que là, c'était le coup de chance de pouvoir prendre l'avion. Enfin, j'avais même peur qu'à l'embarquement, ils me disent que je pouvais pas voyager, quoi, parce qu'on voyait que ça n'allait pas. Enfin.
Ouais, surtout dans le contexte actuel. Quoi.
Et oui. Mmh. Oui. Parce que c'est pareil, les mesures sanitaires là-bas, prise de température, etc. Mais en fait, je me disais, enfin, il y a un truc qui va pas passer. Enfin, ils vont se dire que je suis que je suis positive ou j'en sais rien et je vais jamais pouvoir passer. Puisqu'à l'époque, en plus, il y avait pas de test de demander. C'était juste la déclaration sur l'honneur et puis on passait à un espèce de contrôle à l'aéroport. Donc je me disais, enfin, à tout moment, ils vont me dire vous êtes venu pour rien, quoi.
Oui, c'est clair. C'était vraiment le risque.
Oui, sincèrement. D'ailleurs, enfin, je pense que ça a été un petit peu inconscient aussi de ma part de me dire on continue coûte que coûte, mais c'est vrai qu'on est tellement dans l'optique on veut se bébé.
Quand t'es dedans, t'es dedans.
Voilà. Donc c'est vrai qu'octobre, voilà, il se passe pas trop grand chose. Si moi j'échange sur un groupe Facebook où il y a plein de patientes de la clinique qui échangent, alors dès qu'on a déjà eu des enfants et puis d'autres qui sont en parcours, et je sais pas comment je tombe sur un post d'une qui parle de l'accueil d'embryons. Parce qu'elle est sur liste d'attente et donc elle demande s'il y en a qui ont des témoignages de savoir sous combien de temps ils ont reçu un ou des embryons. Et puis je me dis tiens qu'est-ce que c'est, enfin on m'a jamais abordé le sujet à ce niveau-là, donc je me permets de la contacter pour savoir un peu en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est. Donc là elle m'explique qu'en fait les patientes, alors couple ou femme seule, enfin peu importe, hein, qui ont fait une FIV, alors soit sur elles-mêmes, soit en double don, quand il y a des embryons surnuméraires et qu'elles ne souhaitent pas les garder pour plus tard ou que leur projet de famille est terminé, si je peux dire ça comme ça, elles peuvent soit les faire détruire par la clinique, soit en faire don pour d'autres patientes. Donc je me dis ok.
C'est fou que la clinique ne t'en ait pas parlé s'il le pratique.
Bah ouais, mais je pense que c'est pour le côté financier de la chose.
Ouais.
Parce que voilà. Donc moi à ce moment-là je me dis on m'en a pas parlé, donc peut-être que
tu rentres pas
voilà,
dans la case.
Voilà, peut-être que j'ai quelque chose qui fait que je ne peux pas en bénéficier, donc je contacte la clinique, je leur demande des précisions, je fais comme si j'avais pas d'infos, enfin voilà. Donc là on me recontacte en m'expliquant que bah c'était dans le cadre de ces protocoles là que les embryons étaient entre guillemets donnés, enfin voilà, même si c'est peut-être pas le terme, mais donc on m'explique un peu tout ça. Bon, on met bien le point sur le fait que du coup ils seront pas de moi, mais bon, enfin en soi
bah,
ça change rien.
Un petit truc sur du double don,
hein. Voilà, donc je lui demande un peu du coup quelle est la différence enfin entre la FIV double don et la quête d'embryon, enfin j'essaye de comprendre pourquoi on m'en a pas parlé. Et là, je demande aussi les tarifs. Et là, donc, on me dit 2100 euros un accueil d'embryon contre 5000 et quelques la FIV. Donc, je comprends pourquoi on m'en a pas parlé.
Oui, non, mais c'est clair. Voilà. Non, mais ça n'a rien à voir.
Voilà. Donc, je comprends que pour eux, c'est pas rentable. Bon, on me souligne le fait que l'accueil d'embryon, voilà, on t'en donne un ou deux, alors que la FIV double don, ils sont tous à toi et que à l'issue, tu peux les réutiliser plus tard, etc.
Oui, enfin voilà, mais voilà. Tout est relatif, la preuve en est.
Voilà, mais bon, on commence à se dire, est-ce qu'on veut vraiment finalement faire plein, enfin, d'enfants.
Oui.
On commence à se dire, voilà. Est-ce qu'il est pas mieux de se dire on fait qu'un seul enfant et après tout pourquoi pas et puis au pire des cas on peut voir par la suite voilà ce qu'on fait ou pas et puis on mène quand même notre projet entre guillemets immobilier en parallèle parce qu'il faudra bien l'accueillir quelque part cet enfant et on peut pas
oui complètement
là. Donc voilà ça fait son chemin un peu comme ça. Là on me dit que en soi bon mon cycle on s'en fiche enfin à partir du moment où l'endomètre est bon. Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Exactement.
Voilà. On me dit aussi que je me taperai pas toutes les piqûres et autres et que donc du coup normalement je suis censée bien réagir au traitement.
D'accord, parce que du coup le corps est pas préparé de la même façon.
Non, pas du tout, parce que du coup il y a pas. En fait, on veut surtout pas faire grossir les follicules puisqu'on va implanter l'embryon déjà tout près.
Oui, d'accord.
Donc c'est juste des patchs à mettre pour faire grossir l'endomètre. Et après des ovules de progestérone pour permettre de faire accrocher et de le maintenir accroché le temps que le corps prenne le relais.
Mais finalement, c'était la solution idéale, cet accueil d'embryon.
Oui, oui, oui.
Mais c'est fou qu'il t'en ait pas parlé.
On aurait commencé par là. Je pense qu'on
aurait fait
notre cheminement là-dessus. Et voilà.
Ouais. Oui, bah oui, parce que ce qui était bloquant, c'était beaucoup le côté financier. Ouais,
oui.
Donc.
Oui, et puis on ne voulait pas mettre nos familles au courant pour le côté est-ce que vous pouvez potentiellement nous
participer,
aider, etc.
Ouais, tout à fait.
Donc là, tout ce temps-là, en fait, personne n'était au courant de rien.
Oui.
Ben oui, du coup, ce qui bloquait nous, enfin, c'était ça, c'était le côté financier à se dire. Alors, je veux pas faire une cagnotte parce que j'ai pas envie de passer pour voilà. Bon, je sais que ça se fait et je critique absolument pas les femmes qui le font, mais voilà, moi je me sentais pas. Demander à mes proches, ben j'avais pas envie de leur infliger non plus. On veut faire un enfant, mais en même temps, on veut déménager, donc on peut pas tout faire, donc il faudrait participer.
Oui.
Voilà. Donc du coup, voilà, on se met là-dessus et puis on se dit bon bah ok, l'accueil d'embryon, ça semble être le mieux.
Mais a priori, il y a des délais,
voilà.
Parce qu'il y a une liste d'attente.
On nous dit que donc il y a des délais, que c'est en fonction de nos caractères physiques. Voilà, il y a plus ou moins de délais forcément, parce que c'est en fonction des dons. Le but est quand même que l'embryon soit le plus proche de nous possible. Donc on nous dit que voilà, pour mon phénotype, donc moi je suis brune, les yeux marrons, ça peut varier entre 2 et 6 mois.
D'accord.
Qui en soi est pas très long.
Ce qui est correct,
voilà.
Ouais.
Et elle me dit en off, entre guillemets, que c'est souvent autour de 3 mois qu'on est recontacté.
Oui, mais c'est hyper acceptable.
Voilà. Donc on se dit, ok, bon, voilà, 3 mois, ma foi, depuis le temps qu'on attend, on n'est pas à 3 mois près, donc on se lance comme ça. Donc ils nous mettent sur liste d'attente. C'était début novembre, du coup, enfin, ouais, mi-novembre peut-être.
Qui nous ont... 2020, on est toujours en 2020.
Ouais.
Oui, ben en même temps, c'est logique.
Ouais.
2021, ça marchait pas.
Non, ça marchait pas. Bon, au début, on n'y pense pas. Enfin, on est sur liste d'attente, mais bon, c'est comme s'il se passait rien. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'on, voilà, on n'attendait pas spécialement dessus. Il y avait juste le côté, on devait réfléchir si on voulait 1 ou 2 embryons.
D'accord. Ça, ils te le proposent de suite,
oui.
En fait.
D'accord. Alors, ils garantissent pas 2 embryons. Enfin, on peut choisir 2 embryons, mais ils nous les garantissent pas. C'est-à-dire qu'ils en trouvent 2 qui sont de la même fratrie. Ils vont les je sais pas, moi je dis décongeler, mais en vrai ça a un terme.
oui.
Voilà, je ne sais pas. Bon bref, ils voient si leur évolution reprend avant de nous les implanter. Ils garantissent pas que du coup que les 2 pourront continuer de se développer et être implantés. Par contre, ils nous garantissent que ils pourront nous en implanter au moins 1.
D'accord, mais alors du coup, ça veut dire que quand tu choisis 2, c'est pour Un transfert. D'accord, ok.
On sait qu'on pourra pas faire de fratrie avec ce don d'embryon-là. Enfin,
oui, voilà, c'est ça.
Génétiquement, ça sera pas une fratrie.
Oui, voilà. Voilà.
Si on veut en bénéficier, on pourra par la suite, mais du coup, ce sera de nouveau un ou deux embryons totalement différents de ceux qu'on m'a déjà implantés.
Oui, voilà. Et du coup, par contre, tu repasses par la case liste d'attente.
Oui, bien sûr.
Ouais, ok.
Donc en soi, on réfléchit un peu, on se dit, ouais, un, deux, bon, deux, ça fait plus de chances.
C'est pas faux.
Voilà.
Ça fait plus de chances de grossesse multiple. Attention.
Oui, mais on ne se dit pas ça au moment, à ce moment-là. Eux, ils nous alertent un petit peu sur le fait que ça peut faire des jumeaux. Bon, ouais, on se dit, ok. Mais en même temps, sur le forum, là, tout le monde fait deux et personne n'a de jumeaux. Enfin, personne. Pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Voilà.
Et puis après, je pense que... Enfin, je sais pas, hein, je sais pas comment vous avez réfléchi à ce moment-là, mais vu le parcours que vous aviez à mener, peut-être que c'était une bonne solution, finalement.
Oui. Et puis on se dit, bon, si c'est des jumeaux, c'est mignon, machin, etc. Ils ont un certain lien. Enfin, voilà, ok. Puis pourquoi ils ont tous qu'un seul à l'issue et nous, on aurait forcément deux. Enfin... Voilà, il y a ce côté aussi.
Ouais.
À l'époque, on savait pas du tout que ça pouvait faire plus que deux embryons.
Oui, voilà. Il y a ça aussi.
Ça, par contre, j'y reviendrai plus tard, mais à ce moment-là, ils nous en parlent pas.
D'accord.
Donc, on se dit, ok, deux, allons-y. Donc, on leur dit que ce sera deux. Donc, ils nous mettent... Enfin, voilà, ils cherchent deux embryons identiques. Oui, frères, on va dire.
Mm-hmm.
Donc, nous, on se dit pas avant, allez, mi-janvier, au mieux, pour avoir
d'accord.
un retour.
Oui, pour avoir... Oui, ça donne ça à peu près au niveau du timing.
Voilà. Et puis, fin décembre, mail de la clinique pour nous dire, bon, on a trouvé deux embryons.
Waouh.
Et là, on se dit, bon, bah là, c'est concret.
Ouais, là, c'est parti.
Voilà, ils sont là-bas. Enfin, pour moi, c'est un peu déjà nos bébés, même si on les connaît pas et qu'ils sont pas de nous, mais voilà, ils sont là-bas. Voilà. Au début, moi, dans mon esprit, je pensais qu'on n'allait pas pouvoir partir parce que mon cycle allait bientôt arriver. Donc, pour moi, il fallait un certain temps. Avant de pouvoir débuter, donc je pensais pas pouvoir débuter sur le cycle de janvier, donc je prends attache avec eux, je leur dis que ça va pas tarder, etc. Et là, elle me dit non, mais en fait, pour nous, c'est comme l'insémination. En soi, il y a pas de souci. Si c'est le mois prochain, si c'est le cycle début dans une semaine, il y a pas de problème. Si c'est en février, c'est vous qui voyez. Maintenant, ils sont à vous, vous avez le temps.
Oui. Maintenant, t'as le choix.
Voilà. Ils nous laissent aussi un petit peu de temps pour réfléchir si on les veut ou pas, ces embryons.
Ah oui, parce que du coup, c'est pas parce que tu as validé le fait que tu en prenais deux.
Non.
Enfin, t'as encore le choix de te rétracter, oui. La possibilité de te rétracter, d'accord.
À ce moment-là, je crois qu'on n'a même pas encore versé d'argent pour être sur cette liste d'attente.
D'accord.
De mémoire. Hein. Donc d'accord. Là, l'idée, c'est qu'ils nous ont communiqué quelques petites infos sur les deux donneurs. Les yeux, les cheveux, le groupe sanguin. L'âge, peut-être, je suis plus sûre. Et donc, bah oui, forcément, ça peut pas être tout identique à moi.
Oui,
donc, ils me laissent le temps de réfléchir.
D'accord.
Voilà. Donc, ils me disent que, en soi, j'ai du temps. Voilà, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date butoir. Bon, alors, pas 6 mois, parce que si j'en veux pas, bah, les embryons vont aller à quelqu'un d'autre qui est derrière moi sur la liste, bien sûr. Mais que je peux prendre une semaine, 10 jours, 15 jours pour réfléchir.
D'accord.
Bon, on ne prend pas ce délai-là.
Vous étiez sûre.
Oui, pour la forme, on a attendu le lendemain pour répondre, quoi. Mais c'était juste pour faire comme si on avait vraiment réfléchi.
On a attendu pile l'ouverture de la clinique pour envoyer le mail.
Non, clairement, on avait déjà suffisamment réfléchi.
Oui, vous aviez eu le temps.
Voilà. Donc voilà, ils étaient, les deux donneurs étaient bruns, les yeux marrons, enfin ou miel, enfin voilà, bon bref, ils étaient quasiment comme nous. On n'allait pas chipoter pour un détail quoi.
Bah oui, bien
voilà.
sûr.
Voilà. Donc on se lance et puis on se dit bah oui, de toute façon niveau logistique, on est obligé de partir sur janvier parce qu'après, moi j'ai des obligations professionnelles et sur février, je suis pas sûre de pouvoir me libérer au moment où il faut implanter l'embryon.
D'accord, donc du coup, vraiment, c'était janvier.
Bah, c'était janvier, en fait. Donc, finalement, entre le mail de la clinique et le début du cycle, bah, il s'est passé, je sais pas, peut-être 5 ou 6 jours seulement.
Waouh.
Voilà.
La rapidité du
truc. Et oui, et donc là, urgence gynéco pour avoir une ordonnance, parce que les patchs, je les ai pas encore, parce que, voilà, je pensais... Enfin, moi, j'avais le temps encore pour moi dans mon esprit.
Bah oui.
Voilà. Donc, on se dépêche, etc. Et la clinique nous dit, 27 janvier, parce que ça, par contre, le transfert, ils peuvent le prévoir quand même bien en amont.
Oui.
Ils me disent que si tous les contrôles sont bons, 27 janvier, on fait le transfert.
Oh, génial.
Donc bon, il y a quand même une écho, je crois, au cours du cycle pour voir l'endomètre. Il est OK, donc on maintient le 27. Là, par contre, pour moins de stress, on se décide à descendre dans le sud de la France une semaine et à aller en voiture juste pour la journée à Barcelone. Mmh. Donc on fait ça, comme ça, voilà, on est plus zen, etc., que l'avion en dernière minute et compagnie.
Ouais, c'est clair.
Voilà, donc on fait comme ça et puis on y va, on fait le transfert d'embryon, donc on l'a, enfin des deux embryons, puisque du coup on avait demandé deux, donc jusqu'au dernier moment on savait pas s'il serait un ou deux, hein. C'est vraiment au moment où t'arrives à la clinique qui te disent bon bah bonne nouvelle, les deux sont corrects quoi,
sont viables. Voilà. Ouais.
Donc là on se dit ok, c'est les deux, ils nous montrent deux petites photos de nos embryons, bon ça ressemble à des petites cellules quoi, voilà, mais bon, ouais. Pour moi j'allais déjà chercher. À ce moment-là, j'allais déjà chercher mes deux bébés en Espagne, quoi. C'est comme s'ils allaient me les livrer déjà,
ouais.
Déjà prêts, quoi.
Tout emballé, tout chaud.
Oui, voilà. Voilà, déjà né, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'était vraiment ça. Donc, on va les récupérer là-bas. Et puis, après, s'ensuit le retour où tu attends de nouveau de savoir si ça a fonctionné.
Ben ouais.
Donc là, c'est pareil, hein, la prise de sang, je crois que c'est plus ou moins 12 ou 14 jours après. Enfin, c'est dans les mêmes délais, hein. Donc on attend, voilà, bon, sauf que moi je suis pas patiente, donc puis à ce moment-là il y avait le télétravail, etc. Donc moi j'étais toute la journée chez moi, donc il y avait rien pour me changer les idées et mon obsession c'était de savoir si ça avait fonctionné. 27 janvier le transfert, le 2 février je me dis je vais faire un test de grossesse.
Ouf, c'est un peu court.
C'est un peu court. Sauf qu'il est positif le test, mais moi je me dis pas que les deux se sont implantés.
Oui.
Je me dis ah ok, la barre elle est légèrement, voilà, mais comme il n'y a pas la stimulation, on se dit que forcément ça peut pas être l'ovitrelle qui fausse le résultat puisqu'il y en a pas eu.
Ouais.
Voilà. Bon, la clinique m'avait dit qu'un ou deux jours après le transfert, le fait que les embryons sont dans un liquide, voilà, enfin qui les conserve, le liquide en question peut faire un faux positif, mais pendant deux ou trois jours après le transfert, donc ça fait plus de trois jours.
Pas une semaine.
Voilà. Mmh. Donc moi, pour moi, c'est un plus de, ça a marché. Mais je me dis pas que si c'est déjà plus, c'est pas bon signe, entre guillemets, quoi.
C'est probablement qu'il est pas tout seul.
Voilà, mais ça, j'y pense pas. Donc, c'est vrai que jusqu'à la prise de sang, tous les deux jours, je refais un test de grossesse en me disant, j'espère que le positif, enfin, la barre va foncer, parce qu'elle était quand même très claire, hein, le 2 février, mm-hmm. Donc c'est pas bien, faut pas faire ça, je sais.
Mais on peut pas s'en empêcher.
Voilà, mais on est obligé de le faire. Et donc, tous les jours, ça fonce, mais, voilà, jusqu'à la veille de la prise de sang, où là, je fais un clear blue, là, où c'est écrit vraiment enceinte avec le nombre de semaines.
Ouais.
Et là, je vois 3-4 semaines. Mais je percute toujours pas.
Clear blue, il dit pas, vous êtes enceinte de jumeaux.
Non.
Non, ça marche pas.
C'est pas lui qui le dit. Je percute pas que c'est pas possible, 3-4 semaines.
Ouais.
Mais je suis tellement contente que ça ait fonctionné, que je me dis pas ça.
Bah oui, non, mais forcément, voilà. Tu te dis, et puis, quand bien même t'as mis lieu de penser à autre chose, quoi.
Oui, voilà. Le seul truc qui m'interpelle un peu, c'est parce que après le transfert, mais alors c'est vraiment après le transfert, c'est là où ils sont un peu vicieux. La coordinatrice me dit gentiment, bon bah ça fera peut-être, enfin non, moi je lui dis ça fera peut-être des jumeaux, et là elle me dit ou des triplés.
Ah, quand même, elle te met la puce à l'oreille.
Oui, mais c'était après le transfert. C'était
oui.
Trop tard.
C'est un peu tard.
Donc bon là je me dis ouais c'est quand même qu'il y a une grande chance de multiple, mais je comprends pas pourquoi ça peut en faire trois, parce que pour moi ils sont déjà, enfin je savais
ouais,
pas
ils
que
sont
ça
déjà
pouvait
divisés.
Encore se diviser.
C'est ça, en fait c'est ce qu'on sait pas.
Et non, personne nous l'a dit ça.
Oui c'est ça.
Voilà. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, donc elle m'explique que ça peut encore se diviser, etc. Bon, bref, au moment des 3-4 semaines, je commence à me dire j'espère que c'est pas des triplés, non pas que.
Ah ça t'effleure quand même.
Là ça m'effleure. Et je me dis mais non, non, ça peut pas être des triplés. Mais c'est vrai que du coup quand je balaye l'idée de c'est pas des triplés, je balaye aussi l'idée de c'est ça peut pas être des jumeaux.
Ouais, tu vires tout d'un coup.
Ouais, je me dis c'est bon, il est un, c'est juste que voilà, peut-être il est bien costaud et le taux. Voilà, je balaye ça de ma tête. Puis bah la prise de sang, le taux il est à 1000 et quelques à J12.
Ouais.
Ça fait beaucoup.
Ce qui est haut, ouais, parce que. Voilà. Moi, pour les triplés à J12, j'étais à 217.
Ah oui, d'accord.
Mais attention, c'était une insémination, donc
oui,
les ovocytes n'avaient pas, enfin, les embryons n'avaient pas le même âge.
Oui, c'est
en fait.
Différent.
Ouais.
Alors, par contre, aux triplés, j'y pense plus. Hein. Je me dis c'est pas des triplés. Bon, et puis il s'avère que c'était pas des triplés, hein. Mais voilà, je pense plus. Mais c'est vrai que ils allèrent pas suffisamment. Parce que ouais. un bébé, c'est une chose, deux, c'en est une autre, mais alors trois, c'est vraiment autre chose. Et mmh. après tout, s'il y en a un qui peut se dédoubler, peut-être que potentiellement les deux peuvent le faire. Enfin, on sait pas, après.
Mais tout à fait.
Voilà. Les multiples qui peuvent.
Et puis ils peuvent se détripler ouais. aussi. Enfin bon, bref, tu vois, on peut voilà. réfléchir.
Mais bon. Donc voilà, deuxième prise de sang, 3000 et quelques. Donc là, je me dis, c'est quand même bizarre, peut-être qu'ils sont deux. Puis autour de moi, mes copines, du coup, voilà, j'ai quand même quelques amis qui connaissent le parcours et qui ont eu des enfants aussi et qui me disent, ouais, ton taux, c'est pas l'aise quand même. Mm-hmm. Et puis, première écho, ouais, il s'avère qu'ils sont bien deux. Voilà.
Mais t'avais fait le chemin quand même ?
Non.
Du tout.
Moi, non. Ma compagne, oui. Elle était D'accord. persuadée que, voilà, vu les résultats, ils étaient deux. Elle était toute contente à l'échographie et tout. Mais moi, j'avais pas
Je le savais.
Oui, oui, oui. Quand on a vu les deux petites poches, elle a tout de suite vu qu'ils étaient deux. Moi, c'est comme si je voulais pas comprendre, en fait, ce que je voyais sur l'écran de l'échographie.
Et pourquoi c'est dédoublé, là? Vous pouvez pas mettre votre main, mais pile.
On voit fou, non? Enfin, on voit double. Voilà. Non, ouais. moi, j'avais pas fait de cheminement du tout.
Et alors?
Eh ben, il a fallu, je sais pas, peut-être 4 mois avant que le cheminement il soit fait.
Ah ouais? Ah oui, oui. quand même.
J'avais bien fait le cheminement de ils seront pas de moi, mais par contre, j'avais pas fait le cheminement de ils seront deux. Même si au départ, quand on a choisi deux embryons, on s'est dit, oh, ça peut être cool. Mm-hmm. Mais à ce moment-là de ma grossesse, je sais pas pourquoi, pour moi, c'était pas... Oui. C'était pas une bonne nouvelle. Enfin, c'était pas une bonne nouvelle. C'était pas une mauvaise nouvelle. J'étais enceinte, hein. Donc, j'étais heureuse.
Oui, bien sûr.
Mais un seul m'aurait suffi. Ouais. Voilà. Après, j'ai fait un autre parcours psychologique pour le reste.
Oui, voilà. Et puis aujourd'hui, tout le monde va bien.
Oui,
et...
voilà, c'est le principal. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a le côté grossesse multiple. Tout le monde nous fait peur.
Ça, c'est sûr. Voilà. Après, c'est pas des grossesses faciles, hein. Le corps humain n'est pas fait pour porter des multiples.
C'est certain. Mais c'est vrai que première écho, on est censé être content de voir notre grossesse, surtout qu'on a eu du mal à l'avoir dans nos parcours respectifs. Bah finalement, on solde le rendez-vous par toutes les pires choses qui peuvent arriver au fait qu'il soit
Exactement.
Deux. Exactement. Ou trois encore plus, je pense. Donc voilà.
Ouais, c'est dans le même ordre. Sauf que les statistiques sont encore.
Oui, moins bonnes. J'imagine. Donc c'est un peu le coup de massue aussi. On arrive tout content, hein, j'ai ma prise de sang, je suis enceinte, machin, etc. Ça peut mal tourner, quoi.
Oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, c'est un peu la douche froide, quoi. T'es là.
Carrément.
Ouais, mais alors en fait, bon. Bon après, je veux dire, tout le monde va bien, quoi. Donc oui. quelque part, c'est une chance. Hein. Il y a des gens qui repartent avec une grossesse arrêtée.
Bien sûr. Voilà. Oui, c'était la hantise de ce que tout le monde va bien aller, etc. Et puis voilà. Puis après, c'est vrai que j'ai eu un moment aussi où il a fallu que la clinique réajuste les ovules de progestérone parce que forcément vu que le taux était super haut aux prises de sang, mais bon, ça moi au moment où j'ai eu la prise de sang je le savais pas et du coup le dosage du traitement n'était pas suffisant, donc j'ai commencé à avoir des saignements, etc. Là-dessus la clinique ils réagissent hyper rapidement, eux je pense qu'au vu des résultats de prise de sang ils s'en doutaient,
ils avaient pas de doute,
voilà, mais ils m'ont pas dit.
Non, c'est pas de faire le job, c'est...
Voilà, puis le taux, c'est vrai qu'on dit tout le temps, ça veut rien dire plus, donc...
Non, ça veut rien dire, et puis ça peut être aussi d'autres choses, bien sûr. Les taux sont élevés sur des grossesses extra-utérines, tu vois, et
c'est plein vrai de choses. Voilà, moi, c'était plus ma hantise, en fait. Quand je voyais le taux très haut, je me disais pas grossesse multiple, en fait. C'est vrai que je suis allée hyper rapidement passer l'échographie, d'ailleurs, on voyait encore... presque rien à l'écho, parce que ma hantise, c'était ça, en fait. Bon, alors, on m'avait dit que quand on implante les embryons, ils peuvent pas se déplacer à un mauvais endroit.
C'est pas faux.
Voilà. Mais bon, avec ma chance...
On sait jamais.
C'est clair. Je préférais quand même vérifier qu'ils soient bien implantés au bon endroit, parce qu'il aurait pu manquer que ça, quoi.
Ouais, tu m'étonnes. Mais écoute, en tout cas, je pense que tu ouvres quelque chose, hein, parce que moi, j'avais déjà entendu parler, c'est ce que je te disais hors micro tout à l'heure. J'avais déjà entendu parler du fait que les couples de femmes qui avaient des embryons surnuméraires devaient faire un choix. Oui. Et donc, je m'intéresse assez fréquemment au choix qui est fait, alors souvent hors micro, tu vois, parce c'est assez propre à chacun.
Oui,
et voilà. Mais j'avais jamais réfléchi à la famille qui va accueillir en face ces embryons. Et je me doute que c'est forcément... une sorte de dernier recours. Donc, c'est une joie énorme d'accueillir ces embryons, mais il y a tout un cheminement à faire et il y a tout un parcours à faire aussi. Et c'était vraiment, je pense, hyper important qu'on en parle parce que tu l'as dit toi-même, si tu n'avais pas été sur ce groupe Facebook ce jour-là, ou si tu n'étais pas tombé sur ce témoignage-là, ben, peut-être que vous seriez passé par une FIV double don ou peut-être même que vous auriez abandonné votre parcours.
Oui, c'est ce qu'on se dit. On remerciera jamais, enfin, on les connaît pas, mais on remerciera jamais suffisamment le couple ou la femme, ou enfin, peu importe, qui a fait ce don, qui a permis, en fait, d'avoir nos bébés, puisque finalement, c'était un peu je pense que c'était un peu la dernière chance pour nous, puisque concrètement, je suis pas certaine que la FIV, double don, on serait passé par là, et je sais pas si ma femme se serait finalement décidée à porter, elle, de son côté non plus, donc finalement, c'était un peu la dernière chance. Après, comme tu le dis, c'est vrai que donner ses embryons, la décision, elle doit pas être simple à prendre non plus.
Non, c'est pas simple, parce que c'est comme tu le dis, toi, tu devais faire le deuil de la génétique, et c'est donner ta génétique, en fait.
Bien sûr.
Tu vois, donc c'est cette partie-là, je pense, qui est la plus difficile.
Ah oui.
Le cap à passer, il est important, je pense.
C'est sûr que... Et je pense que ça pourrait être aussi intéressant de savoir, pour les couples ou les femmes seules, qui ont fait don de leurs embryons, quel est le cheminement, quelles elles ont fait de leur côté.
Oui, complètement. C'est aussi pour ça que j'interroge.
Oui, parce que c'est vrai que nous, on a reçu ces embryons, mais finalement, on se demande un peu qu'est-ce qu'elles ont...
Comment elles l'ont pensé.
Qu'est-ce qu'elles ont pu en penser? Est-ce que ça a été une évidence pour elles d'en faire don, ou est-ce que c'est, est-ce qu'elles ont fait un cheminement aussi de leur côté pour se dire, on les utilisera plus plutôt que de les détruire, ça peut permettre de faire une autre famille. Je sais pas comment elles peuvent aborder ça.
Ouais, non mais il y a beaucoup de choses encore à aborder, je pense.
La richesse de nos parcours aux uns et aux autres, c'est clair.
C'est ça, et de nos familles aussi. Il y a énormément.
C'est clair.
En tout cas, je te remercie beaucoup, Jennifer. Et si ça te dérange pas, je vais donner ton compte. Enfin, si tu m'autorises, je donnerai ton compte Instagram sur la publication Instagram, justement. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont être intéressées.
Oui, si je peux répondre à certaines questions ou autres, il y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Je suis pas forcément hyper calée non plus. Mais,
experte.
Mais ça peut permettre d'aborder... un sujet qui est pas forcément abordé, je pense, par les cliniques. Après, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais je pense aussi parce que rentre en jeu.
Oui, mais bien sûr. Enfin, à mon avis aussi. Enfin, il y a un moment donné, ils font du business, faut pas l'oublier, quoi.
Ah oui, ils sont là. Enfin, c'est leur gagne-pain aussi. Donc, je pense que forcément, s'ils facturent une FIV, c'est plus avantageux que s'ils facturent un accueil.
Exactement. Mais je pense que ça devrait rester dans leur panel de propositions. C'est quelque part, tu vois, ça fait partie de leur job, quoi.
Oui, après, tu prends ta décision.
Et tu fais ton choix, exactement.
Mais bon, là, vu que le résultat, de toute façon, il est un peu le même.
Oui, bien sûr.
Enfin, c'est sûr qu'entre une FIV sur soi-même et un accueil, la décision n'est pas la même. Mais une FIV double don, un accueil, concrètement...
Le résultat, il est quand même
proche. Il est similaire, voilà.
Oui. Enfin, il est similaire, sauf sur, effectivement, toute la partie collecte des embryons,
bien
quoi.
Sûr.
Enfin, collecte. Oui, voilà, tu vois.
Bien sûr.
Ça, voilà.
Et puis aussi sur le fait que a priori, en tout cas pour Girex, si on a un phénotype un peu particulier, où il y a peut-être peu d'embryons en don, la FIV, ils ont l'air de trouver des donneurs, deux donneurs plus rapidement.
Oui, mais complètement.
Voilà.
C'est parce que ça a été court ton délai finalement.
Ah bah là, oui, carrément. Enfin.
Ouais. C'est ça qui en plus de ça, enfin. Ça permet d'accéder à la maternité, surtout dans des cas comme le tien où il y a une notion d'urgence.
Oui.
Ça permet d'accéder à la parentalité dans un délai relativement court.
Ils étudient quand même le dossier avant d'accepter l'accueil d'embryon.
Oui, je me doute qu'on ne peut pas forcément demander ça.
Je pense que si l'IAD est possible ou éventuellement la FIV sur ses propres ovocytes, je pense qu'on ne peut pas passer en accueil d'embryon si tous les feux sont ouverts pour le reste.
Ça paraît logique aussi.
Je suppose, je vois ça comme ça. Parce que le but étant quand même de maximiser les chances pour que ça marche sur soi-même, et puis aussi parce que je pense qu'il n'y a pas non plus une multitude d'embryons de données, et que si tout le monde va vers cette solution-là pour une question uniquement de budget, je veux dire...
Oh, bien sûr. Non, mais ça paraît complètement cohérent.
Je suppose que c'est comme ça que ça se passe.
je suppose aussi. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jennifer.
Merci à toi.
De m'avoir contactée pour partager ce témoignage, parce que vraiment, c'était important qu'on l'aborde. Et puis, ben, j'espère que tu vas pouvoir, et j'en suis convaincue d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a des bébés qui vont arriver comme ça.
Bah, j'espère, ouais, comme ça. Après, on pourra tous échanger de comment on va leur raconter plus tard, parce que ça, aussi, ça va être une étape.
C'est ça, exactement. Voilà. C'est vrai, hein, c'est encore une histoire différente.
Bah oui, ça sera encore une autre histoire à aborder, donc ça peut être pas mal aussi d'avoir des ressentis de ceux qui sont déjà passés par là et qui ont des enfants plus grands.
Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup et puis bah, je te dis à très bientôt.
Ouais, merci beaucoup.
Avec cet épisode, je pense que nous avons ouvert le champ des possibles pour certaines d'entre vous. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des cliniques qui vous suivent à l'étranger. En ce qui concerne la France, outre le fait que la PMA est ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules depuis très peu de temps, et que cela ne permet pas de constituer un stock, si l'on peut dire, cette possibilité n'était déjà pas de base ouverte aux couples hétérosexuels, pour une question de possibilité de conservation. C'est donc une option à laquelle vous ne pourrez avoir recours que dans certaines cliniques étrangères. Toutes ne le proposent pas. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut être utile, ne serait-ce qu'à une seule personne, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à faire découvrir le podcast pour lui faire gagner en visibilité. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le noter sur Spotify et me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour poursuivre la discussion ou en commencer de nouvelles. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du fil rouge du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience. There are stories and mythology that this country has woven around black men. This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are. It's a survival mechanism to just be like, worry the police. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.